CFM Villefranche, le mag.
Le mag, oui, édition de ce mardi 28 septembre. On va parler scoutisme aujourd'hui avec Jean-Pierre Manger et Laure Frimigacci. Scoutisme à l'occasion de la réhabilitation de la stèle du frère Jean Salès. Une réunion et un rassemblement nous est proposé samedi 2 octobre. Mais pour l'instant, on va parler langue de bois et on va parler HP, 34 Rue Alibert en roue libre, carte blanche avec Nat Loulou et Alice et Amélie en studio des invités. C'est la première.
Qu'est-ce qu'on est nombreux.
Trop bien, une fanfare. Las Patatos Valdés génial. Et ses 32 musiciens. Ça fait du bien de voir du monde comme ça.
Et on repart donc avec deux invités pour un atelier de désintoxication à la langue de bois. Alors la langue de bois, c'est quoi? Puis cet atelier, ça va être quoi? Ça va être créer une synergie entre les acteurs du territoire pour permettre une meilleure citoyenneté et puis un meilleur développement de la démocratie.
Je crois qu'on est bien dedans.
On est dedans, oui.
D'accord.
Je n'en sortirai que par la force de baïonnette.
Alors avant tout ça, on va peut-être annoncer que Régis est en cuisine cette semaine.
Et il nous cuisine un tagine.
Oui, comme à son habitude, on adore ça.
Qui est excellent.
Donc mercredi après-midi, c'est l'atelier, l'atelier de confection du repas. Autour de Sophie, parce que Julie est arrêtée pour l'instant, je le redis, on cherche un remplaçant, une remplaçante à Julie pour son congé maternité. On recherche quelqu'un à partir du mois d'octobre, et ce jusqu'en mars pour 5 mois, d'un poste de coordinateur de l'espace de vie sociale.
Et les CV sont envoyés où?
Au Pôle emploi, madame.
Très bien, monsieur.
Mais revenons à notre langue de bois. Donc Amélie, Alice, on va vous demander peut-être dans un premier temps de présenter un petit peu ce que vous faites dans la vie en général, mais surtout au niveau de vos, pas l'association, mais de ce que de vos activités,
voilà,
parce que c'est pas une asso, c'est un peu particulier.
Et non, ouais. Moi c'est Alice, du coup, je suis donc à Stiléana Création. En fait, on est toutes les deux dans une boîte, c'est une structure de coopérative de portage salarial. Et du coup, dans cette coopérative qui s'appelle la Smart, moi j'ai mon activité qui s'appelle Stiléana Création et Amélie qui a son activité qui s'appelle Paivi Création. Donc voilà.
Donc vous êtes entrepreneuses toutes les deux.
On est.
Eh oui.
Oui. Ouais.
Oui, on a décidé de pas faire d'association, de plus être en association pour l'instant, parce qu'on avait envie de créer nos activités et de voir comment ça fonctionnait, aussi parce qu'on était un peu lessivés du monde associatif. Et on a deux activités et on en a plusieurs dans ces activités-là. Cette coopérative nous permet d'avoir plusieurs secteurs d'activité. On a nos petites spécialités, mais on aime bien travailler à deux. Et toutes les deux, on fait plusieurs choses. On a créé un jeu de vocabulaire émotionnel. On fait de l'accompagnement, de la formation, de l'animation. Généralement, on se dit éducatrice populaire et collective.
Alors donc là, vous proposez un atelier de désintoxication à la langue de bois. Kézako, qu'est-ce que c'est que ce truc?
La langue de bois, qu'est-ce que c'est? Souvent, en fait, c'est justement quand on pose la question, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais personne ne sait jamais vraiment le définir. La langue de bois, on va la définir en disant que c'est un peu le langage de la pensée dominante qui va servir un petit peu à lisser les rapports de domination entre les gens, qui va un peu falsifier la réalité, qui va adoucir...
enjoliver.
Voilà, ce genre de choses-là. Et du coup, on va la trouver essentiellement en fait, dans le cadre du travail ou dans le discours politique. Parce que, entre nous, on ne va pas trop parler de lien social pour faciliter la citoyenneté, justement. On va parler de se rencontrer pour faire une bonne bouffe, par exemple. Donc là, on est typiquement dans un langage de langue de bois, ou pas. C'est à peu près ça, la langue de bois. Je pense que c'est assez résumé.
Et ça, dans le milieu associatif, quand on voit les dossiers de partenariat, toutes ces choses, c'est vrai que ça... C'est prégnant, quoi.
Oui.
On sent bien une transposition un petit peu du modèle économique, de cette pensée un peu économique avec son vocabulaire dans le milieu associatif.
C'est ce social. Que tu es obligé de faire évoluer pour répondre à la demande de tes institutions, de
c'est
tes
ça,
partenaires.
Que ça rentre dans les cases. Et...
Voilà, tu t'occupes plus des pauvres, tu t'occupes plus des précaires, maintenant tu as un public. Tu as un public défavorisé ou tu as un public de jeunes avec moins d'opportunités. Tu dois toujours trouver la nouvelle petite phrase qui va faire que ça passera mieux auprès des dossiers de subvention. Bah, c'est typiquement... apprendre à faire de la langue de bois pour lisser les réalités parfois tristes ou dramatiques que tu peux avoir dans l'activité de ton asso. Ou de ta structure, enfin, peu importe. Parce que dans le monde professionnel, il y en a plein. En fait, la langue de bois, elle se répartit aussi en plusieurs types de familles. Il y a les sigles qui vont faciliter le...
Ouais.
On parle de SDF. Avant, on parlait de clochard. Et la clochardisation, c'est un processus. Et ça en tenait compte, en fait, de parler d'un clochard. Maintenant, on parle de SDF. On dit même plus sans domicile fixe en entier. Et comme si leur seul problème, c'était de pas avoir de maison. On a lissé la réalité qui était beaucoup plus... violente de ces personnes-là pour on les cache dans l'espace public ou dans notre vocabulaire, et c'est ça qui est fou, c'est que comme on pense avec les mots, la langue de bois, elle arrive malgré nous, et malgré si on n'y est pas vigilant et attentif, on se laisse à dire des choses qui effacent la réalité
en fait.
Ou la violence ou la domination ou les rapports d'exploitation.
En aparté, on parlait par exemple de frappe chirurgicale pour qualifier les bombardements. Aujourd'hui, on parle de collaborateurs au lieu de salariés.
Salariés, employés,
techniciennes de surface.
Techniciennes de surface.
Pour revenir sur les salariés, avant on disait du coup, maintenant on dit collaborateurs.
Ouais.
Avant, on disait employé, et du coup, ce qui supposait un employeur, quand même, accessoirement. Et même avant, on parlait d'exploité et d'exploiteur.
Ouais.
Et du coup, c'est vraiment comme ça, comment ça se transforme, et qui, du coup, ça enlève les endroits où, en fait, on peut, face à un employeur, on peut monter au créneau et dire on n'est pas d'accord. Quand on est collaborateur, on se retrouve un petit peu tout seul dans son coin, et puis on accepte de collaborer avec nos collègues.
Projet de l'entreprise, parce que c'est le projet qui compte. Non, mais ça, c'est magnifique.
Oui, ça,
tu peux pas te révolter contre un projet, alors qu'aller demander une augmentation de salaire à ta hiérarchie, c'est possible. Tu demandes pas ça à un projet, ça marche plus. Et quand on nous enlève les mots pour lutter, on nous efface aussi notre capacité à résister. Et du coup, c'est un peu tout l'enjeu pour nous de ces ateliers. C'est de démontrer que chacune est experte. Là, on en cause, les exemples, ils viennent tout seuls. Tout le monde la connaît,
tout le monde
la comprend, tout le monde sait ce que c'est.
Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on nous a aussi individualisés. Et du coup, on a la conscience chacun dans notre coin. Mais c'est pas des espaces c'est pas des sujets sur lesquels on va parler facilement. Et du coup, l'enjeu des ateliers, il est là, en fait. C'est surtout déjà d'en parler entre nous et après de proposer des exercices de lutte, en fait, de résistance collective. L'idée, c'est d'arriver ensemble à...
Et peut-être aussi de se rendre compte, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. C'est devenu tellement habituel dans la vie quotidienne.
Ouais. Mais en fait, quand on commence à gratter ce genre de sujet-là, c'est un peu comme le féminisme, j'allais dire, mais quand on a commencé à mettre les lunettes du discours, après on le voit de plus en plus. Et du coup, ce qui est intéressant dans les rassemblements collectifs, c'est que justement, on va faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire se co-former les uns les autres, apprendre et s'appuyer sur les savoirs experts de chacun et chacune, quoi. C'est ça le but.
Comment tu définirais, Alice, l'éducation populaire?
l'éducation...
On en fait partie, le Barasso aussi, on est quand même dans cette mouvance aussi.
Le problème de l'éducation populaire, c'est que c'est une notion qui a été beaucoup ravalée et réutilisée et dévoyée, comme souvent. Nous, on va parler d'éducation populaire collective ou politique, mais où du coup, l'idée de on est un peu tous à égalité, on a des expériences de vie qui sont propres à chaque individu. Et c'est d'arriver à organiser l'espace et le temps pour que les individus puissent se rencontrer et s'appuyer sur les expériences des autres, en fait, pour, comprendre un peu plus le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça qu'on va aussi parler d'éducation populaire politique, mais dans le sens où le politique, comprendre la cité pour y vivre dedans, ensemble, et faire démocratie, du coup, réelle.
Voilà. Alors revenons un petit peu à ces ateliers. Comment ça se passe? Déjà samedi, ça se passe à l'URQR, l'Université Rurale Quercy-Rouergue, sur inscription. Hein, les places sont quand même limitées. C'est une journée de formation.
Ouais.
Ce n'est pas à prix libre, contrairement aux autres ateliers qui vont se dérouler au haut-parleur. Comment va se passer cette journée à l'URQR de samedi ?
Alors, avant la journée de samedi, c'est vraiment un cycle qu'on propose un petit peu, parce que ça faisait quelques temps avec, à l'époque, Colline, maintenant Céline de l'URQR, et Julie des haut-parleurs. Déjà depuis l'année dernière, en fait, où on s'était capté, où ça fait déjà deux fois que le cycle il est reporté. Et du coup, il se construit vraiment un peu en trois temps. Un premier temps, donc le samedi 2 octobre, on va dire un peu théorique, où on va voir, on va aller creuser justement ce dont parlait Amélie tout à l'heure, mais les sigles, les anglicismes, enfin toutes les figures du style de la langue de bois, les oxymores.
On va faire de la déformation.
Voilà. Et après, du coup, un peu des exercices pratiques aussi, parce que c'est toujours intéressant. Donc ça, c'est un peu la journée de samedi. Oui. Après, les vendredis...
Grosse journée, hein, samedi, c'est vraiment toute la journée. C'est quoi, 9h midi,
9h30 à 17h30, avec une petite pause repas au milieu. Mais dans l'idée de déjà faire groupe et après essayer d'aller creuser et montrer surtout qu'on sait tous la cibler, vraiment, c'est ça l'enjeu du samedi. Après, du coup, il y aura les 15 octobre, 5 novembre et 19 novembre au haut-parleur, où là, l'idée, c'est de faire plutôt des temps de vraiment exercice pratique. On va construire, peut-être des bingos, des bingos de gros mots.
Ouais, c'est le moment où il faut ramener la plaquette du comité d'entreprise,
la pub de Anne Blanc, voilà, recevoir dans la boîte aux lettres.
Tout ça, parce que c'est le moment où c'est sympa de ramener de la matière à aller détoxiquer, quoi. On va désintoxiquer tout ça et voir les vrais mots, en fait. Qu'est-ce que ça donne quand on remet les bons termes à leur place?
C'est ça qui est génial, en fait, dans les ateliers de désintoxication, c'est que rien que d'en parler, on jubile déjà. Et en fait, de faire les ateliers en soi, c'est vraiment jubilatoire. Enfin, de se rendre compte que je suis capable de faire une lettre de non-embauche à un employeur, par exemple, de réaliser sa propre fiche de poste réelle, sans langue de bois. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui sont des petits rouages un peu jubilatoires. Et en fait, on se rend compte que on n'est pas tout seul et qu'on est...
Et que rire ensemble parce qu'il y a un côté où vraiment c'est fandard de retrouver les bonnes définitions, d'aller gratter tout ça et de sentir qu'on est tous et toutes compétents et qu'on a la matière en soi, on est des expertes et des experts. Et ça, c'est libérateur, c'est émancipateur, ça fait du bien, c'est un bon moment à passer. Enfin, c'est un bon moment de se sentir actif intellectuellement, quoi, aussi.
Ça. Et du coup, voilà, ça, ce serait les trois temps de rendez-vous au haut-parleur, donc les 15 octobre, 5 novembre et 19 novembre, de 18h30 à 21h30. Mmh. Et après, du coup, il y aurait une dernière séance le 4 décembre qui repart à l'URQR, au bâtiment interactif, pour un petit peu clôturer le cycle, voir un peu, parce que on n'aura peut-être pas les mêmes publics le 2 octobre. Est-ce que les gens on fait des productions chez eux, essayer de rassembler un peu toutes ces productions là et en tirer un petit peu les bienfaits,
faire une fête. On va célébrer les langages désintoxiqués, voir ce qui pourrait être sorti des jeux, des ateliers, faire une restitution, mais célébrer aussi le fait qu'on soit des esprits indépendants et qu'on ait créé collectivement notre culture de résistance à la langue de bois.
Excellent. On rappelle un petit peu les rendez-vous. Alors donc, le samedi 2 octobre, au bâtiment interactif à l'URQR, sur inscription, il y a un mail sur la fiche, mais on peut contacter via le Barasso aussi. On a des fiches d'inscription. Parce que je le répète, c'est une formation payante qui peut être financée. Mais ça reste payant, je ne sais plus exactement le tarif à la journée, une centaine d'euros, il me semble.
120 ou 150 euros.
Ouais, c'est ça.
En tête. Ouais.
Après, le vendredi 15 octobre, le vendredi 5 novembre et le vendredi 19 novembre, ça c'est au Barasso, c'est en soirée, c'est à prix libre. Mais pareil, sur inscription, c'est pas mal qu'on sache un petit peu, il faut toujours qu'on respecte un petit peu une jauge protocolaire. Et le bilan du cycle qui est plutôt le samedi 4 décembre, de nouveau à l'URQR au bâtiment Interactis. Ouais. Merci beaucoup Alice, Amélie.
Merci beaucoup
pour cette
vous.
Belle initiative
à vous.
Qui va nous faire du bien et redonner un peu. J'aime bien le capitalisme à visage humain. celui-là est merveilleux quand même. Celui-là, il est beau. C'est un de mes préférés, celui-là.
Pas mal, celui qui est pas mal aussi, c'est, que j'adore, moi, c'est le tri sélectif.
Le tri sélectif.
Si le tri n'était pas une sélection de base.
C'est chacun sa petite pépite. Moi, c'est la démocratie participative. Oh, ouais. Je trouve ça magnifique. Ah, on nous en fume avec un nouveau concept. C'est génial. Voilà.
Ça donne super envie. Vous revenez quand vous voulez. La semaine prochaine, peut-être, non,
pour
la suite. Allez, Zoupela, on retrouve l'intervention du jour en podcast sur le site cfmradio.fr. On parle de toute autre chose dans un instant, de scoutisme avec Jean-Pierre Manger et Laure Frémy-Gatchi. Ciao, la semaine prochaine.
Mais oui.
CFM Villefranche, le mag. CFM Villefranche, le mag.
Il y a quelques mois, une souscription a été lancée pour participer à la réhabilitation de la stèle de frère Jean Salès et l'installation d'un pupitre. Une souscription qui n'est pas encore totalement arrivée à son terme. En tout cas, la stèle sera inaugurée ce samedi 2 octobre, occasion de rappeler l'histoire de Jean Salès et dans le même temps mettre en avant le scoutisme, ses valeurs et pourquoi pas faire revivre le scoutisme à Villefranche-de-Rouergue. Bonjour Laure Frémy-Gatchi et Jean-Pierre Manger et ravi de vous accueillir dans ces studios.
Bonjour.
Bonjour David.
Jean-Pierre Manger, vous avez le t-shirt sur vous, ancien scout, guide et scout de France.
Oui, c'est une fierté d'avoir appartenu à ce mouvement. Et c'est vrai que, comme on dit, scout un jour, scout toujours. Les valeurs portées par le scoutisme donnent envie de les dupliquer, de les prolonger et de les faire revivre à Villefranche.
Peut-être un mot avant toute chose sur frère Jean Salès, cette stèle, son histoire. Et puis un point sur l'inauguration programmée là ce samedi 2 octobre.
Oui, on peut parler de frère Jean Salès, qui était un personnage charismatique, tout à fait extraordinaire. Il était professeur à l'institution de Trespierre et en même temps chef de troupe d'un groupe scout. Et il est mort accidentellement, très exactement le 7 juillet 1949, ça remonte à très longtemps, mais Cet événement, sur le plan local, a vraiment frappé les esprits, cet événement. Cet accident a vraiment frappé les esprits, et il existe encore de nombreux témoins oculaires qui en gardent un souvenir, comme on garde le souvenir, j'allais dire, du 11 septembre ou de la mort de Kennedy. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup marqué. Et c'est vrai que ce chef avait ce caractère charismatique, il était adoré par les jeunes. Et c'est vrai que cette réhabilitation du mouvement est une bonne chose, c'est un devoir de mémoire. On peut dire deux mots du monument. Ce monument, c'est une stèle en forme de croix scoute qui a été érigée sur le lieu même du drame, dans les gorges de Morlion, très rapidement après l'incident. Et puis, à l'extension de la carrière Kaila, ce monument a été démonté et il a été réinstallé sur le chemin des patrimoines. Alors là aussi, c'est tout un symbole, le patrimoine du scoutisme, avec la volonté des maires de Serge Roch et de Jean-Sébastien Ossibal, et avec la volonté de créer un espace patrimonial autour du scoutisme.
Samedi, là, 2 octobre, c'est une inauguration ouverte au public ou comment ça s'organise? Qui sera sur place?
Ah oui, c'est ouvert au public, c'est ouvert à tous les publics. On va honorer la mémoire de Jean Salès, on va baigner dans le scoutisme, le passé va rejoindre le futur. C'est ouvert à tout le monde, j'espère qu'il y aura un maximum de Villefranchois, j'espère qu'il y aura un maximum d'anciens scouts, d'anciens guides. Et je sais que d'ores et déjà, on aura des témoins oculaires, des gens qui ont vécu l'événement et qui en gardent un souvenir, comme je disais tout à l'heure, tout à fait ému, pour avoir vu ce chef, sans entrer dans le détail tragique, mais ce chef étendu, le crâne fracassé.
Alors Frémy Gassi, vous êtes, alors j'allais vous dire cheftaine, mais vous m'avez dit non, c'est pas totalement ça, vous êtes co-responsable du groupe Scout et Guide de France Saint-Éloi, hein, c'est ça, qui englobe le nord de l'Aveyron, l'ouest et une partie de la vallée du Lot, et aujourd'hui le camp de base, je serais tenté de dire qu'il est plutôt du côté de Decazeville. Hein.
C'est ça, on a notre local où on stocke tout notre matériel sur Cransac, mais après on accueille des jeunes... effectivement, un peu des quatre coins de l'Aveyron. Il y a des jeunes qui viennent d'Espalion, il y en a qui viennent du Bassin, il y en a qui viennent de Villefranche, il y en a qui viennent de Figeac. Voilà, c'est un peu la grande famille qui se retrouve une fois par mois.
Une grande famille que l'on retrouvera très certainement ce samedi 2 octobre, à 15h30 déjà, puisqu'il y a une messe qui est organisée à la chapelle de 13 Pierre.
Hein. Oui, ensuite il y aura l'inauguration officielle avec Monsieur le maire et puis les autorités civiles et religieuses, comme on dit traditionnellement. Il y aura le pot de l'amitié, bien entendu, accompagné par un ancien chef scout, Frédéric Berton, qui nous jouera les airs que l'on pourra reprendre. Et puis ça sera suivi après par, j'allais dire, des retrouvailles informelles, avec un repas tiré du sac, avec quelques merguez, parce que quand même il faut bien qu'il y ait un feu de bois et que ça cuise, sinon ça ira pas, quoi. On ne s'y retrouvera pas. Tout ça aggrave à partir de 19h, où, alors là, tout le monde était... Tous les anciens, tous les sympathisants, tous ceux qui veulent découvrir le scoutisme sont invités en toute simplicité, en toute amitié.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le scoutisme et puis les valeurs que vous partagez?
Oui.
C'est quoi? C'est tous les week-ends? C'est dès que vous pouvez? C'est...
Donc, nous, notre, le 2 et 3, ça va être notre week-end de rentrée. Donc on va se retrouver avec notre petite troupe. Il y a à peu près une trentaine de jeunes. Ça va de 8 à 17 ans. Puis après, on a des chefs. Donc dans le mouvement scoutisme... En deux mots, les Scouts et Guides de France, donc c'est un mouvement d'éducation qui vise à former des citoyens actifs, heureux, utiles et artisans de paix. Alors c'est des grands mots, mais concrètement ça se vit à chaque fois que les jeunes se retrouvent entre eux. Donc c'est un mouvement d'église, on est un mouvement de l'église catholique. On vit au quotidien en fait l'évangile, c'est-à-dire faire attention les uns aux autres, être dans... Faire attention aussi à la création et puis vivre vraiment dans le quotidien en prenant des initiatives, en grandissant ensemble, en faisant attention aux plus petits. Et on donne beaucoup d'autonomie aux jeunes. C'est-à-dire que dès qu'ils peuvent, en fait, ils vont participer à tout ce qui est les moments de la vie quotidienne, la préparation des repas, la vaisselle. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait, ils se régalent à faire toutes ces tâches-là. Et puis en grandissant, en fait, ils vont préparer eux-mêmes les activités. Quand ils deviennent scouts, et puis après quand ils deviennent Pio et Caravelle, là on leur demande carrément de réfléchir au camp qu'ils veulent faire l'été, c'est-à-dire qu'ils vont être porteurs de projets. on leur dit, tout est possible, à vous de faire ce que vous avez envie. Il y a toujours des... Là, cet été, ils sont partis pendant les PIO, ils sont partis PIO et Caravelle. Donc ça, c'est la tranche d'âge, c'est les 14-17 ans. Ils sont partis dans l'Aude et ils ont fait moitié itinérance et moitié camp fixe. Ils étaient dans une ferme vraiment perdue au fin fond de l'Aude et ils se sont régalés. Voilà, il n'y avait pas de... On parle toujours des jeunes et des connexions, des téléphones portables. Et bien là, il n'y avait pas de téléphone portable. Les parents, on a eu un ou deux textos, si ce n'est aucun, pendant le séjour. Et quand on voit les petits films qui sont faits pour retransmettre un peu ce qui a été fait pendant le camp, on voit des jeunes qui s'amusent dans la nature, qui font une séance de sensibilisation sur les vautours avec la LPO, qui vont dans une abbaye, qui finissent... à la mer, ils vivent vraiment des moments...
La protection de l'environnement, ça fait partie des préoccupations aussi de ces jeunes, en tout cas. Hein.
Oui, oui. Mmh. Et là, on se rapproche, alors, comme je disais tout à l'heure, au mouvement d'église ou l'encyclique du pape Laudato Si, qui nous dit, le pape François, qui nous dit qu'on est tous sur la même, la même terre et qu'il faut qu'on y fasse attention. Les scouts, on va être vraiment dans essayer de consommer local. On n'est pas dans des activités consuméristes. On fait très, très peu d'activités payantes. C'est-à-dire que les jeunes, ils vont s'amuser dans la nature. Ils vont faire des exploits, ils vont faire des randos, ils vont faire des grands jeux. Et quand on part d'un endroit, il est plus propre que quand on est arrivé. Voilà, ils font ce qu'ils appellent un râteau où tous les jeunes se mettent ensemble et ils ramassent vraiment tous les petits bouts de papier qui traînent, tous les plastiques. Et puis on fait aussi des randos où on a toujours des sacs et on va faire on va ramasser ce qu'il y a dans ce qu'on peut trouver dans la nature.
Les perspectives pour la création d'un groupe à Villefranche-d'Orouergue, on l'a évoqué en aparté, Frémigassi, mais comment à Villefranche, c'est installé à Decazeville. Hein.
Oui, alors nous, y a beaucoup de jeunes du Villefranchois qui vont donc sur Decazeville. Il y a encore la possibilité de pouvoir rejoindre le groupe, sachant qu'on veut quand même que ce groupe garde une taille humaine. C'est aussi la spécificité du scoutisme 30-40, pas plus, parce qu'après, on passe dans une... après, les relations humaines sont quand même beaucoup plus... il vaut mieux des petits groupes en fait pour vraiment créer du lien entre les jeunes. Donc si on voulait ouvrir un groupe sur Villefranche, la première des choses en fait c'est de trouver des chefs. Voilà, c'est un peu la perle rare. Il faut trouver des chefs qui ont envie de se lancer dans le mouvement
et qui ont suivi la formation peut-être.
Voilà,
aussi, déjà, c'est la base, hein.
Voilà, qui peuvent passer le BAFA et après le BAFD avec les scouts et guides de France. Et puis trouver quelques familles sur le Villefranchois qui seraient motivées pour créer un mouvement. Donc ce qui a été vu avec Jean-Pierre et puis toutes les anciens membres des familles scouts du Villefranchois, on s'est dit en fait que quand la contribution aurait payé en fait tout ce qui était lié à la création de la stèle, le surplus ira au groupe de Saint-Éloi et on en donnera la moitié pour permettre à un groupe à Villefranche de s'installer. Donc on leur achètera des tentes, des cantines, voilà tout ce qu'il faut pour commencer à lancer un groupe. Donc ça voilà, c'est prévu. Mais après, il faut qu'il y ait des parents qui ont envie. Au départ, ça peut être petit. Il suffit qu'il y ait 2-3 familles avec une dizaine d'enfants. Peut-être qu'au départ, les parents, ils commencent par accompagner les jeunes. Et puis après, en grandissant, les jeunes vont devenir chefs.
Il y aura encore à dire. Hein. Je vois, on est embarqué là, mais on va rappeler que c'est l'inauguration de la stèle du frère Jean Salès et l'installation d'un pupitre. C'est sur les berges de l'Aveyron. On l'a dit précisément où ou pas encore? Je crois pas.
Hein. On n'a pas explicitement précisé, mais alors le lieu est assez facile, c'est tout à fait à l'extrémité du chemin du Mespoul, qui est pas très connu, mais c'est le gué de la Madeleine, tout à fait près du pont de chemin de fer. Vous tapez sous Google 65 chemin du Mespoul, Google Maps, et vous y arrivez, carrément. J'ai pas les coordonnées GPS en tête.
Avec la boussole,
avec
peut-être
la boussole, voilà. On pourra faire un jeu de piste.
Allez, le rassemblement est programmé à 17h30. Je l'imagine, ça va être une grande fête aussi de retrouvailles. La grande famille scout autour de la stèle donc, du frère Jean Salès et l'inauguration de ce pupitre. Les souscriptions sont encore ouvertes. Elles auront toujours une utilité. C'est utile de le rappeler, très certainement.
Et n'hésitez pas à vous renseigner sur le scoutisme. Voilà, s'il y a des jeunes qui ont envie d'essayer. Avant d'adhérer au mouvement, on peut faire un ou deux week-ends pour essayer. Et même s'il y a des jeunes chefs 17, 20, 24, 25 ans qui ont envie de se lancer, la porte est grande ouverte.
Scout et guide
de
France, Ah oui, c'est très bien. Scout et guide de France Saint-Éloi, hein, c'est ça,
ouais,
en ce qui concerne le groupe de notre secteur. Merci Laure Frimigacci et Jean-Pierre Manger d'avoir accepté cette invitation. Et
bah,
une bonne fête alors à vous samedi. Merci beaucoup.
Merci.
CFM Villefranche, le MAG.